15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être tous les jours de 15h à 16h. Nous vous recevons dans ce studio en direct et on essaye de vous faire du bien. Et justement pour ce faire, il m'épaule tous les jours, il sort de consultation et arrive dans ce studio illico, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au coronavirus, ce virus chinois qui a émergé en décembre dans la ville de Wuhan. Là-bas, près de 4000 personnes auraient déjà été contaminées, plus de 100 personnes seraient décédées selon les autorités chinoises. Alors pour certains scientifiques, ces chiffres seraient sous-estimés. Ce serait en réalité beaucoup plus. En tout cas, en France, 3 cas ont été diagnostiqués à ce jour. On fera le point avec notre invité, le docteur Vincent Hainouf, virologue à l'Institut Pasteur. Il nous dira si effectivement le risque d'épidémie chez nous est aussi faible que les autorités le prétendent. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une innovation française, un petit bonhomme connecté inventé par une start-up nantaise qui aide les enfants atteints d'asthme ou d'autres maladies à bien prendre leur traitement. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler de tendinite. Comme son nom l'indique, c'est une inflammation d'un tendon. Nous verrons quelles sont les causes et surtout comment ça se soigne. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, elle va prêcher pour sa paroisse. Enfin non, je plaisante, elle va surtout nous expliquer quand et pourquoi il est nécessaire parfois de consulter un sexologue. Que se passe-t-il réellement lors de ce type de consultation ?
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Sabrina.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. J'ai des jumeaux de bientôt 3 ans. Ils sont nés prématurément et je suis un petit peu inquiète. Il a 34 mois, il mesure 88 cm. Donc, il se situe en bas de la courbe de croissance. Lundi, lors du dernier rendez-vous avec la pédiatre, elle leur a prescrit une radio du poignet et de la main pour connaître leur âge osseux. Et en fonction, on a évoqué un possible traitement à base d'hormones de croissance qui serait donné par un endocrinologue. Je voulais savoir comment tout ça se passait et est-ce que ces traitements fonctionnaient vraiment bien. Je vous remercie par avance et je vous souhaite une bonne émission à tous les deux.
Merci beaucoup Sabrina pour votre question. Jimmy, on va faire un petit point sur le traitement à base d'hormones de croissance pour les enfants un peu petits qui en manquent. D'abord, pas d'inquiétude, hein, les traitements d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux qui ont fait scandale dans les années 80.
Hein. Oui, à l'époque, près de 120 enfants étaient morts car on leur avait injecté de l'hormone de croissance infectée par l'agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Oui, c'est vrai.
Le problème, c'est qu'à l'origine, ces traitements étaient extraits d'hypophyse naturelle, cette glande qu'on trouve dans le cerveau, prélevés sur des cadavres.
Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Depuis 88, c'est fini. Ces médicaments de synthèse sont donc fabriqués en laboratoire.
Alors, comment fonctionnent ces traitements qu'on peut donner donc à certains enfants qui sont un petit peu trop petits ?
Alors, c'est pour pallier un déficit en hormones de croissance. Cette hormone de croissance, on l'appelle aussi la somatotropine. Mm-hmm. Cette hormone permet, lorsqu'elle est synthétisée, de grandir, de faire grossir finalement les os, les muscles. Et elle est aussi nécessaire à l'âge adulte. Elle a un impact majeur sur le système cardiovasculaire et sur le développement des muscles. Et on sait que certains enfants peut avoir un déficit et pour combler ce déficit, on les supplémente en hormones de croissance.
Alors il y a plusieurs raisons pour avoir ce déficit, on n'a pas vraiment le temps d'en parler aujourd'hui, plusieurs maladies notamment. Ça concerne beaucoup d'enfants ces traitements, comment ça se prend le traitement hormonal ?
Alors 6000 enfants sont sous ce traitement en France, évidemment que c'est l'endocrinologue pédiatrique qui pose l'indication. Mmh. Ça commence vers 5 à 6 ans, on continue de faire le traitement jusqu'après le pic de croissance, au moment où la vitesse de croissance diminue franchement. Une fois qu'on a atteint la maturation du squelette, la maturation osseuse, ça n'a plus d'intérêt car on ne peut plus grandir. C'est un traitement qui se fait sous injection tous les jours, c'est un peu contraignant. Ça peut se faire par une infirmière au départ, puis par les parents. Ça coûte assez cher et c'est parfois un peu difficile à accepter aux enfants.
Alors assez cher, mais c'est remboursé par l'assurance maladie. Est-ce que ça fonctionne bien ce traitement en termes de résultats ? On peut s'attendre à quoi ?
Une fois que l'indication est bien posée, qu'on sait pourquoi on l'a fait, une fois qu'on débute le traitement, les résultats sont très bons. L'exemple donc que tout le monde connaît, c'est celui de Lionel Messi qui avait un déficit en hormones de croissance.
C'est vrai.
Le footballeur, à 10 ans, il mesurait 1m10. On lui estimait une taille à l'âge adulte d'1m50. Et puis finalement, il fait 1m69. Et
c'est pas un géant non plus, mais, ouais, mais c'est une taille c'est pas mal. C'est
30-20 cm par rapport à ce qui était proposé. Et puis, c'est devenu la star du foot que j'aurais pu être, mais je n'ai pas été.
Mais vous n'avez pas eu d'hormones de croissance.
Oui, mais pour répondre à Sabrina, avant de parler de déficit en hormones de croissance, les jumeaux parfois sont nés prématurés, ils ont des petites tailles constitutionnel, il faut voir la taille des parents, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte avant d'évoquer ça et on explore les autres axes comme la thyroïde, les surrénales pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres déficits associés. Donc c'est un peu prématuré, il faut évidemment consulter, il y aura une radio avec une match pour voir l'âge osseux. Mais voilà, il faut patienter et pas tout de suite se lancer sur un traitement, d'autant plus qu'ils sont encore très petits.
Bien sûr, merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur, cette fois c'est Laura, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Dimi Mohamed. J'avais une question sur ma carte vitale que j'ai perdue. Je ne sais pas comment la refaire, est-ce que c'est compliqué? Et j'ai rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine, est-ce que je serai quand même remboursée?
Alors Dimi, ça peut tous nous arriver de perdre notre carte vitale, c'est embêtant, mais une fois qu'on s'en rend compte, on fait quoi?
Alors une fois qu'on s'en rend compte, il faut faire une déclaration de perte à la Sécurité sociale, qu'on peut faire de plusieurs façons. On peut appeler le numéro de la Sécurité sociale qui est le 3646. Il est un peu surtaxé, c'est 6 centimes d'euros la minute plus le prix d'un appel. Vous pouvez aussi le faire, et c'est le plus simple, sur votre compte amélie.fr, faire la déclaration de perte. Et puis après, il faut attendre qu'on vous renvoie la carte vitale. Et puis c'est un peu là le problème.
Oui, ça prend une quinzaine de jours, je crois, pour avoir une nouvelle carte vitale, au minimum.
C'est le délai
annoncé. Voilà.
Et puis souvent, c'est 2 voire 3 mois. Donc il faut prendre son mal en patience.
Bon,
la Sécurité sociale est parfois débordée. Néanmoins, vous serez quand même remboursé.
J'allais vous dire, si je ne l'ai pas, en attendant, je fais comment?
Vous avez une attestation de droit de Sécurité sociale que vous pouvez présenter à la pharmacie. Vous n'aurez pas forcément le tiers payant à la pharmacie. Néanmoins, vous serez remboursé. Il faudra envoyer la petite feuille de soins. C'est ce que nos parents faisaient à l'époque. On est remboursé un peu plus tardivement.
Vous en faites parfois,
oui, on en fait encore, exactement. On est remboursé un peu plus tardivement, mais ça marche aussi.
Merci beaucoup, Dimi. Alors, si vous aussi, comme Laura qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Dimi Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'un petit bonhomme connecté pour inciter les enfants asthmatiques, par exemple, à bien prendre leurs médicaments. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le docteur Vincent Hénouf de l'Institut Pasteur, avec qui nous allons faire le point sur l'épidémie de coronavirus qui touche actuellement la Chine. Quel est réellement le risque chez nous de voir émerger une telle épidémie? Il nous dira. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Vincent Hénouf de l'Institut Pasteur, qui va nous aider à y voir plus clair sur ce coronavirus, c'est le moment du docteur Dimi Mohamed, du bon conseil du docteur Dimi Mohamed. Aujourd'hui, Dimi, vous nous parlez d'une innovation technologique pour les enfants et plus particulièrement pour la prise de médicaments. Qu'est-ce que c'est que cette innovation?
Alors ça a été créé par une start-up française qui est basée à Nantes, donc on peut être fier, qui a créé un petit objet connecté qui s'appelle Meiko. Cet appareil fait la tête, donc il n'est pas content, lorsqu'il est l'heure de prendre son traitement. Et lorsque le traitement est pris, Meiko se met à sourire. Et donc, ça veut
dire
que tout.
Exactement,
un petit robot. Au départ, ça a été créé donc il y a 4 ans, initialement pour les asthmatiques. Et puis, ça a été étendu pour les patients diabétiques, les patients qui auraient un traitement contre l'épilepsie. Et il a été présenté au fameux CES à Las Vegas, là où
cette
les
année,
produits innovants sont dévoilés.
Et ils ont eu pas mal de prix. Alors, c'est pas mal du tout ce truc-là, ça a l'air assez ludique. Ça peut peut-être aider un petit peu à dédramatiser la prise de traitement chez les enfants, quand même.
Exactement.
Hein,
pour l'instant, Meiko accompagne 400 patients au quotidien. On le trouve dans certains hôpitaux, comme le CHU Necker, donc l'hôpital pour enfants. Ça permet de dédramatiser la maladie, rendre les moments de traitement un peu plus ludiques pour l'enfant.
Bah oui, si ce petit robot dit qu'il faut prendre tes médicaments, on a tout de suite
plus
envie
de les
prendre.
Il y a une façon aussi de réduire les conflits, l'angoisse liée à la prise des traitements. Et ça permet aussi d'instaurer une forme de motivation sur le long terme. L'enfant, il peut être aussi rassuré, se sentir valorisé, puisqu'il est un peu responsabilisé en disant « bah tiens, c'est l'heure de prendre mon traitement, mais Meiko n'est pas content, je prends mon médicament et puis tout d'un coup, tout va bien ». L'initiative du traitement peut être prise par l'enfant et peut du coup avoir un peu plus confiance en lui.
Et puis ça doit aider surtout les soignants qui ont parfois du mal à convaincre les patients, surtout les petits patients de l'intérêt de prendre les médicaments.
Exactement, pour l'intérêt. Et puis ça peut être utilisé comme un carnet de santé numérique, puisqu'il est connecté à une application pour smartphone qui permet de noter les horaires de prise.
Oui, il est très intelligent ce petit Meiko.
Exactement, rapporter certains symptômes ou événements particuliers à signaler au médecin. Du coup, le médecin, il sait si le traitement a été pris correctement. Il peut aussi
il flique Meiko un peu, il surveille.
Bah oui, notamment les diabétiques, les enfants parfois disent « oui, j'ai fait mon insuline » et puis on se rend compte que ça n'a pas été le cas. Donc le médecin peut se rendre compte s'il y a des problèmes, ajuster des dosages et programmer des examens. Et puis aussi, on peut confier Meiko à l'entourage. Si on est divorcé ou séparé, on peut le confier au conjoint, à la nounou, parce qu'il suit l'enfant exactement. L'enseignant, souvent, lorsqu'un enfant est malade à la crèche, il faut une ordonnance pour comprendre à quel moment.
Allez, Meiko à la crèche aussi.
Meiko pourrait peut-être effectivement aider. Donc ça permet de limiter certaines contraintes. Et puis ça peut aussi lui donner des instructions sur la prise de médicaments lorsqu'on est absent. Donc on peut rester serein.
Allez, Meiko, tu mets une fessée.
Voilà. Des indications médicales, évidemment.
Gentil, bien sûr. Et donc ça coûte combien? Ça doit coûter très cher, toute cette technologie.
C'est pas si cher, honnêtement, pour la technologie que c'est et l'innovation. C'est 130 euros.
Ah oui,
c'est disponible sur Internet et dans certaines pharmacies. Et la start-up espère équiper 1500 enfants d'ici 2020. Peut-être que le prix diminuera avec la production, mais voilà une initiative française qui peut au service des enfants.
Merci beaucoup docteur Dimi Mohamed pour ce petit focus donc sur cette innovation pour les enfants. À présent, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, c'est le docteur Vincent Hénouf, directeur adjoint du Centre national de référence virus et infections respiratoires à l'Institut Pasteur.
15h, 16h, Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Hainouf.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Alors on va parler avec vous aujourd'hui du coronavirus dont on parle beaucoup ces derniers jours. On va reprendre peut-être un tout petit peu l'histoire depuis le début. Ce coronavirus, il a surgi donc début décembre en Chine. Sur un marché, je crois. Hein. C'est de là que tout est parti.
C'est ça. C'était un marché aux poissons qu'on nous indiquait au départ. Des personnes avaient une pneumonie un peu inhabituelle. Et ils ont remarqué très rapidement que l'ensemble de ces personnes avaient côtoyé ce marché. Ça, c'était vraiment le début. Et depuis, donc, on se pose de nombreuses questions. On a certaines réponses, notamment sur la transmission, la capacité de ce virus à se transmettre, qui est un coronavirus, qui est déjà un virus... d'une famille que l'on connaît déjà. Il en existe plusieurs. Il en existe quatre qu'on appelle des virus communs qui provoquent des rhumes tous les hivers, en fin de compte. Et puis, vous en aviez deux, le SARS et le MERS coronavirus, qui sont des virus plus tueurs, entre guillemets. Et puis là, ce nouveau...
C'est un septième, alors.
Un septième qu'on essaye de connaître davantage. Et heureusement, vendredi dernier, on a réussi à en détecter... chez trois patients, et donc on va pouvoir les étudier de telle manière à en savoir plus.
Alors on a quand même l'impression que depuis, alors vous avez dit ça a démarré début décembre, depuis fin décembre on est un petit peu plus au courant ici, en tout cas on a l'impression que le nombre de personnes déclarées malades ou de décès n'arrête pas d'augmenter, on a l'impression que c'est exponentiel. Là on est passé à 100 décès aujourd'hui, enfin, on a l'impression que ça explose de jour en jour, c'est le cas ou pas?
Pendant quelques jours, les autorités chinoises nous disaient qu'il n'y avait pas de transmission humaine avérée, et en fin de compte il devait y en avoir une petite en tous les cas. Et à partir du moment où du personnel soignant qui s'était occupé de malades a été infecté, eh bien, on ne pouvait pas ignorer ce phénomène. Et ce phénomène est très important, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez une diffusion facilitée, et ce que l'on remarque aujourd'hui, entre humains, et ça provoque la dissémination qu'on connaît aujourd'hui.
Jimmy ?
A-t-on vraiment les vrais chiffres ? Des universitaires à Hong Kong disent qu'on serait plutôt plus proche de 40 000 cas que des 3 000 qu'on pourrait avoir, et qu'on serait en train de sous-estimer ce qui se passe réellement ?
Difficile à dire. En tous les cas, ce que l'on a observé, c'est qu'à partir du moment où on avait des cas détectés en dehors de Chine, de Wuhan plus précisément, eh bien, il était sans doute vrai que les modèles mathématiques déterminés par l'Imperial College à Londres aussi indiquaient qu'il y avait sans doute plus de cas qu'on pouvait multiplier par 10 les valeurs qui étaient indiquées à l'époque.
Bon, en France, en tout cas, on a 3 cas avérés. On va en parler dans un instant, docteur Hainouf. On ne fait que commencer cet entretien. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons passer ce coronavirus au microscope. D'où vient-il ce virus? Comment a-t-il émergé? Quel animal pourrait être à l'origine de sa transmission à l'homme? Et surtout, à quel point est-il virulent, contagieux? On va tout vous expliquer. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Vincent Hainouf, directeur adjoint du Centre National de Référence Virus et Infections Respiratoires à l'Institut Pasteur. Docteur Hainouf, ce virus, on sait aujourd'hui d'où il vient. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure d'un marché avec des poissons, mais ce n'est pas le poisson qui a transmis ça à l'homme, ça serait plutôt un autre animal peut-être qui serait le réservoir du virus.
C'est-à-dire que sur ce marché, on se posait beaucoup de questions, mais il y avait aussi des animaux de braconnage, enfin du gibier. Et en fin de compte, sur les séquences que l'on a obtenues des premiers virus, du premier coronavirus chinois, ces séquences sont très appariées, ça ressemble énormément au virus que l'on détecte chez les chauves-souris. Donc sans doute que ce sont des chauves-souris qui sont porteuses de ce premier virus, qui infectent peut-être un animal de la forêt, qui est vendu ensuite dans ce marché. Et qui, malheureusement, qu'ils soient morts ou vivants, avaient la possibilité d'infecter des hommes qui sont sans doute rapprochés de ce stand, je ne sais pas bien.
Mais on ne sait pas encore quel est l'animal entre la chauve-souris et l'homme qui l'a potentiellement transmis à l'homme.
On ne connaît pas exactement le réservoir de ce virus.
D'accord. Pourquoi on l'appelle coronavirus? Je crois que ça vient de son observation au microscope, c'est ça?
C'est ça, en l'observant au microscope, on observe comme une couronne qui est formée avec les protéines extérieures de ce virus sur son enveloppe.
D'accord, c'est une petite boule avec des poils en fait, enfin, ça fait comme des couronnes autour de la...
On appelle ça des spicules.
Des spicules, d'accord.
Et en effet, elles sont rangées comme s'il y avait une couronne sur ce virus.
D'où le nom. Jimmy ?
À quel point ce virus est contagieux ? Est-ce qu'on peut le comparer à la grippe ou pire, la rougeole en termes de contagion ?
Alors au niveau de sa contagion, donc sa diffusion dans la population, on se rend compte qu'il est quand même très contagieux puisqu'il a infecté beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on a des indicateurs, alors le mot barbare, R0, mais qui au départ était inférieur à 2, maintenant supérieur à 2, ce qui témoigne...
Ça veut dire R0, c'est-à-dire qu'une personne peut contaminer 1, 2, 3, 4 personnes.
Voilà. Après, il y a d'autres facteurs qui doivent rentrer en compte. Mais
là,
en tous les cas,
on dit qu'il pourrait contaminer, une personne peut potentiellement contaminer combien ? 4, c'est ça ?
On sera à 4, 5. Et dans ce cas-là, on a un virus qui a quand même un potentiel infectieux important. En revanche, est-ce que c'est un virus très dangereux pour les personnes qui se portent bien? Ça, on n'en a pas forcément beaucoup d'idées. Ce qu'on observait dans les premiers temps, en tous les cas, ce qu'on nous disait au niveau des informations chinoises, c'est que les personnes qui étaient décédées étaient des personnes déjà très malades avant d'être infectées. Si on lit les premiers journaux qui ont été publiés par les équipes chinoises, on voit en effet qu'il y a un tiers des personnes décédées aujourd'hui qui étaient dans cette catégorie. Mais il y a deux
donc
tiers...
Donc des gens âgés avec déjà des maladies peut-être voilà. sous-jacentes. Et
tout à fait.
Ça, d'accord.
Et les autres, non, étaient des gens qui n'étaient pas forcément très âgés et qui sont tout de même décédés. Donc c'est tout ça où il faut faire très attention et toute l'importance justement d'avoir les bonnes informations et suffisamment tôt.
C'est pas si rassurant que ça, parce qu'on avait l'impression de dire que les gens qui vont décéder, c'est un peu comme la grippe, c'est une surmortalité de gens très fragiles. Mais si vous dites qu'il y a deux tiers des décès qui seraient des gens finalement plutôt en bonne santé, ça veut dire que...
Je dis pas ça. Je dis que dans le papier, il faut relire le papier, mais en tous les cas, il y avait... Parmi ces décédés, c'était que 40 personnes, je dirais, c'est déjà ça, mais c'était 40 personnes. Il faut bien faire attention à ça.
Ce ne sont pas que des personnes âgées, en tout cas. Est-ce qu'on a une idée si ce virus, on sait que le virus de la gastroentérite ou de la grippe, ce sont des virus qui résistent sur des surfaces, sur des objets. Ils peuvent rester quand on a touché tel ou tel objet, une poignée de porte. C'est le cas avec celui-ci, il peut tenir sur une barre de métro, par exemple?
Sans doute. Aujourd'hui, et puis étant donné qu'on n'a pas encore isolé le virus, qu'on n'a pas le virus entre nos mains réellement, on n'a pas pu faire ces tests-ci, mais comme beaucoup de virus respiratoires, sa dissémination favorite, c'est le postillon que le voisin va inhaler et donc va être infecté. Mais après, il a sans doute une espérance de vie de quelques heures au moins sur des supports et en plus quand il fait froid, pour pouvoir être disséminé parmi la population.
Donc pas de risque en achetant des produits qui viendraient de Chine et qui ont voyagé pendant des jours ou des heures, beaucoup plus que ça en tout cas.
Non, ouais. Aucun risque.
D'accord. Et les personnes hospitalisées, du coup, ce sont les personnes qui sont vraiment malades, vous disiez. Je reviens sur la Chine très rapidement. En Chine, on sait que des millions de personnes, 60 millions de personnes, sont confinées aujourd'hui. C'est l'équivalent de la France. Est-ce que ça, c'est une bonne mesure pour couper l'épidémie?
Alors, mécaniquement, de bloquer, en fin de compte, tous les trajets possibles pour éviter aux personnes de quitter cette zone, c'est très bien. Après, est-ce que ça a été fait suffisamment tôt? C'est toute la question. En effet, un confinement pris à temps peut être une mesure efficace. Après, on verra bien dans le temps si ça a réellement été efficace.
Docteur Hainouf, nous allons poursuivre cette discussion dans quelques minutes. On reste ensemble. Europe 1. Dans un instant, nous allons passer à la situation en France. À ce jour, 3 patients contaminés par le coronavirus ont été diagnostiqués. Ces patients infectés en Chine sont hospitalisés à Paris et à Bordeaux. Dans quelles conditions? Comment sont analysés très concrètement les autres cas suspects? Qui fait les tests? Quel est le risque sur notre territoire de voir se développer une épidémie? Nous allons répondre à toutes ces questions juste après. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Vincent Hainouf, directeur adjoint du Centre National de Référence Virus et Infections Respiratoires à l'Institut Pasteur. Docteur Hainouf, on n'a pas parlé juste de la symptomatologie, c'est-à-dire que quand on est infecté par ce coronavirus, on n'a pas forcément une forme très grave. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on va l'attraper qu'on va décéder, on est d'accord hein?
Non, tout à fait.
Ça donne quoi comme symptôme?
Je pense que la majorité des personnes qui sont infectées, même en Chine, vont déclarer un rhume ou un mal de tête ou une petite grippe. Ou une grippe, on n'en sait trop rien.
Mais c'est pas un décès à tous les coups, il faut rassurer les gens en plus au cas
où. Sur la quantité de personnes qui ont été infectées, beaucoup évidemment s'en sortent et s'en soignent.
Heureusement. Jimmy ?
En ce moment, dans votre labo, vous continuez de tester, parce qu'on a parlé qu'il y avait 3 cas en France, mais vous continuez en ce moment de tester des nouveaux cas et des gens qui seraient suspects de coronavirus ?
C'est chez vous que ça se passe, à Pasteur. Hein.
Tout à fait, à l'Institut Pasteur. Donc on reçoit tous les jours des échantillons qui sont suspects, des personnes qui reviennent de cette région, de Wuhan, et qui présentent la symptomatologie, les cas cliniques qui ont été déterminés. Et ces prélèvements sont expertisés au laboratoire avec la nouvelle technologie.
Et vous en avez beaucoup? Je ne sais pas, vous en avez 5, 10, 100, 1000?
C'est à peu près une dizaine par jour pour l'instant.
Quand même, et ça s'accélère. Cela dit, on sent depuis quelques jours, depuis qu'il y a eu les cas confirmés, que vous avez confirmé vendredi, il y a plus de demandes, j'imagine, de tests pour des cas suspects.
Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on a détecté les premiers, mais en tous les cas, on voit, une importance du nombre de suspicions qui commence à augmenter. Oui.
Donc ça veut dire quand même qu'on a un test de dépistage. Déjà, on peut dire, on a été quand même hyper rapide, je trouve, là-dessus. Une maladie qui émerge début décembre, et hop, on a déjà un test de dépistage. Comment ça s'est passé, la mise au point de ce test?
Donc en fin de compte, à partir du moment où les séquences ont été libérées par le...
La séquence ADN du virus, c'est ça?
Ouais, exactement, par les Chinois. Eh bien, on a pu tout de suite expertiser cette séquence et mettre en place...
Parce que ça a été donné à toute la communauté scientifique, c'est ça, les Chinois l'ont publié, la séquence ADN de ce virus. Voilà sa photo, voilà à quoi il ressemble. Et donc tous les chercheurs ont pu, de leur côté, essayer de mettre au point du monde entier, c'est ça.
En place, un test, donc c'est ce que l'on a fait, une équipe allemande l'a fait aussi. Aujourd'hui, on utilise le test de l'équipe allemande avec le test parisien, le test de l'Institut Pasteur.
Vous faites un double test à chaque échantillon ?
Non, c'est-à-dire que l'échantillon est unique, mais on fait des doubles tests, en effet, technologiques, de telle manière à être sûr qu'on détecte bien ce virus.
Jimmy ?
Et comment ça se passe ? Comment on fait le test ? C'est un prélèvement sanguin, un prélèvement nasal ?
Sur les prélèvements qu'on a techniqués vendredi dernier, c'est des prélèvements nasopharyngés. Faut savoir que
Avec un petit coton-tige,
qu'on met dans le nez et puis on prélève les cellules plus ou moins infectées, comme la grippe, exactement. Mais on désire aussi recevoir des prélèvements profonds quand il est possible d'être fait, soit des crachats, soit des lavages broncho-alvéolaires, de telle manière à expertiser davantage le virus. Est-ce qu'il reste dans les voies hautes uniquement respiratoires ou est-ce qu'il va aussi dans les voies basses ? C'est une information d'intérêt pour la connaissance de ce virus.
Vous l'étudiez de très près en ce moment. De toute façon, j'ai bien compris que c'était un peu l'activité principale en ce moment à Pasteur avec la grippe. Hein, parce qu'il y a
Pasteur
la grippe.
Dans notre laboratoire.
Ouais. Dans votre laboratoire.
Parce qu'il faut que tout fonctionne autour. Encore.
C'est ça. Et combien de temps vous mettez pour avoir un test ? Vous recevez l'échantillon à partir du moment où vous l'avez ? Vous avez le résultat en combien de temps ?
3-4 heures.
Oui, c'est quand même assez rapide. Pourquoi il n'y a que vous qui avez ce test aujourd'hui en France ? Pourquoi il n'est pas diffusé dans tous les hôpitaux français qui en auraient besoin, en tout cas ? Ou potentiellement, on peut accueillir des patients dans des chambres stériles, etc., à pression négative ?
Donc, dans un premier temps, quand on met en place un test, il y a toute la partie contrôle qualité qui doit être effectuée, notamment sur les témoins positifs à utiliser. Donc, ces témoins positifs, on les a, on est en train de les peaufiner. Là, on va bientôt en libérer un qui n'est pas le test, le témoin positif final.
Ça veut dire quoi un témoin positif, très précisément, pour nos auditeurs ?
C'est quelque chose qui va mimer le virus, en fin de compte, qu'on va mettre dans l'essai, de telle manière à savoir si on a fait le mélange correctement.
Un peu compliqué peut-être voilà. Pour nos auditeurs, mais on compare en gros un truc témoin, le virus témoin, avec l'échantillon que vous avez, vous voyez si ça se ressemble, si c'est du coronavirus, si c'est le même,
c'est
matché,
c'est
et hop,
ça.
C'est ça. Jimmy ?
Bon, pour le moment, nous avons 3 cas en France, mais on est d'accord, il faut qu'on s'attende à de nouveaux cas. Il est quasiment impossible que ça se limite à 3 personnes malades.
Alors, ça pourrait très bien se limiter. Mais ce que l'on observe en tous les cas, et ce qu'on observe aujourd'hui en Allemagne, c'est que même des personnes qui n'ont pas voyagé à Wuhan ont été infectées par des personnes qui sont rentrées de Wuhan.
Oui, mais comment on va faire maintenant ? Parce qu'une fois qu'on est aux urgences, les gens vont finir par arriver aux urgences pour ce qui ressemble à une grippe, donc coronavirus ou grippe. Comment est-ce que les soignants vont faire la différence entre une grippe, un rhume et le coronavirus, vu que le critère de « je ne viens pas de Chine » Je viens de Chine, ne sera peut-être plus nécessaire dans quelques temps.
Alors pour l'instant, il est toujours d'actualité. S'il ne l'était plus, en effet, ça va être très compliqué parce que vous avez l'épidémie de grippe qui va sans doute s'intensifier à un moment donné, même si pour l'instant, on dit que l'épidémie n'est pas
calme,
encore.
Non.
C'est assez calme. Mais il n'y aura aucune possibilité symptomatiquement, visuellement, je dirais,
de faire une distinction.
Différence entre un virus de la grippe ou un virus du corona qui est en train de se disséminer.
On n'en est pas là, en tout cas, les premières contaminations sur le sol européen. Il y a eu un cas pour l'instant en Allemagne, c'est ça, et en France pour l'instant, on n'en a pas eu du tout ces cas-là. C'est vraiment que des gens qui sont revenus de Chine avec le virus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire... Du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, à part ces 3 cas qui sont hospitalisés dans des chambres stériles ou vraiment isolés du reste de la population, ça veut dire qu'aujourd'hui, aller dans les transports en commun, on risque rien. Enfin, je veux dire, pour l'instant, il n'y a pas de panique du tout à avoir en France.
Il ne faut surtout pas paniquer. Mais faut être conscient qu'en effet, il y a ce virus qui circule en Chine, qu'on l'a détecté ailleurs, que si vous vous sentez malade, évitez d'aller dans des lieux publics, de respecter, je dirais encore davantage, tous les bons gestes divers, c'est-à-dire le lavage des mains, si on tous essayait de porter un masque pour protéger les autres.
C'est efficace le lavage des mains contre le coronavirus ?
Tout ce qui est méthode de...
Ça paraît rien par rapport à ce virus qui nous fait très peur. On se dit, laver les mains, je me débarrasse du coronavirus si je l'ai sur les mains.
Un virus grippal, si vous toussez, qui tombe sur les mains et que vous l'apportez près de vos fosses nasales, même des yeux, on n'en sait rien sur ce virus. Eh bien, ça pourrait être un moyen de se contaminer.
Donc il n'y a pas d'intérêt à s'exciter sur les masques. Les pharmacies sont en rupture de stock. Certains commerçants sur Internet ont multiplié leur prix de vente pour faire plus de marge. Mais il faut dire aux gens, ça ne sert à rien de se ruer sur les masques respiratoires. Ce n'est pas la seule mesure efficace.
Surtout que si vous n'utilisez qu'un masque chirurgical, ça protège si vous toussez, mais les gens qui toussent autour de vous...
Ça traverse.
Non, c'est pas que ça traverse, ça passe sur les côtés, donc c'est pas fait pour ça.
D'accord, donc ça pas d'utilité. Par contre, lavage des mains, ça oui, c'est important.
Lavage des mains et éviter de se retrouver dans des lieux publics quand vous êtes malade ou alors parmi des gens malades. Mais pour tous les virus respiratoires, c'est le cas.
Et si on a croisé quelqu'un qui vient de Chine, qui rentre de cette région dans les jours précédents, il y a quelque chose à faire ou pas ? Si on n'a pas de symptômes,
il n'y a rien à faire. À partir du moment où vous déclarez un symptôme ou un mal de tête, vous appelez votre médecin généraliste qui appellera ou vous-même appellerez le 15. Et à partir de ce moment-là, avec le médecin référent, on saura si vous êtes un cas possible ou non.
Jimmy,
À quelle distance on peut contaminer quelqu'un? Il faut que ce soit un contact qui soit forcément très rapproché ou à 2-3 mètres si on est
éternue. Parce que là, dans ce studio, on pourrait se contaminer si on était
alors, si
atteint.
Si vous toussez, en effet, c'est jusqu'à 1,50 mètre, on va dire.
Là, on est à 1,50 mètre. Si
50.
Je toussais que j'étais infectée, je pourrais vous le transmettre.
Oui, parce qu'au moment où vous allez tousser, moi, je vais respirer, donc je vais inhaler les postillons et donc je peux être infectée.
Voilà. D'accord, c'est cette distance-là. Il faut quand même, donc les gens qu'on croise dans le métro, si on n'est pas dans le même wagon, on risque rien, on est d'accord, hein, c'est
oui.
Ça. Il faut quand même rassurer les gens. Là, on va rapatrier un certain nombre de Français d'ici la fin de la semaine qui sont en Chine. C'est pas un peu risqué de les faire revenir alors que pour l'instant, en France, on a l'air de maîtriser la situation?
Je ne sais pas exactement comment va être fait ce rapatriement, mais ces personnes vont être isolées pendant quelques jours, vont être surveillées. De telle manière à déclencher éventuellement des prélèvements sur les personnes qui déclareraient une fièvre, par exemple. Donc, le temps d'incubation, pour l'instant, c'est entre 5 et 10 ou voire 15 jours. On peut déterminer aujourd'hui que si vous ne déclarez pas de maladie dans les 15 jours, c'est que vous n'êtes pas contaminé.
Jimmy,
est-ce qu'on est prêt à faire face à une vraie épidémie de coronavirus? Est-ce qu'on serait prêt à affronter une épidémie plus importante que celle qu'on a actuellement? Parce que bon, il n'y a pas d'épidémie pour l'instant.
Il n'y a pas d'épidémie pour l'instant. Tous les ans, on a une épidémie de grippe avec environ entre 10 et 15 000 décès dans la population.
C'est vrai que là, on s'affole pour 3 cas et même pas donc des décès. Voilà, hein, mais
après,
on a quand même 10 000 décès de la grippe chaque année et on n'en parle pas autant peut-être.
Et,
hein.
Voilà, et c'est maintenant que ça va commencer avec l'épidémie grippale, si elle s'installe. C'est pas qu'il est difficile de répondre à cette question, mais on n'a pas forcément de réponse. Mais tous les ans, on a une épidémie à virus respiratoire. Ce qui serait dangereux, à mon avis, c'est d'avoir une épidémie à grippe pour les personnes qui seraient affaiblies par des maladies ou des personnes âgées et qu'on ait un autre virus pour lesquels on n'a aucune protection, on n'a pas de vaccin.
Est-ce qu'il y aurait un intérêt de se vacciner contre la grippe maintenant en se disant, si je suis vacciné contre la grippe, si j'attrape quelque chose qui ressemble à la grippe, eh ben c'est peut-être le coronavirus qu'on aurait dans un mois. Est-ce qu'il y aura un intérêt encore à se vacciner maintenant?
Tout à fait, on peut encore se faire vacciner maintenant. Il y a un intérêt, en effet, donc se protéger contre le virus grippal qui arrive. Et puis, comme vous le dites, c'est-à-dire que si vous arrivez et que vous avez une fièvre et que vous avez une toux enfin, qui exprime une maladie respiratoire, si vous êtes vacciné, ça fait déjà une information supplémentaire pour le médecin qui sera en face de vous.
Beaucoup dénoncent les mesures dans les aéroports qui seraient insuffisantes sur les vols qui reviennent de Chine, justement. En gros, aujourd'hui, on leur donne un prospectus avec les informations que vous venez de nous donner, le temps d'incubation, si vous avez une fièvre, si vous avez ci, surtout n'allez pas à l'hôpital, appelez le 15 ou votre médecin. Est-ce qu'un contrôle de température, par exemple, avec un portique, comme ça se fait dans certains pays, à l'arrivée de ces personnes, ça ne serait pas mieux, finalement?
De manière cartésienne ou mécanique, c'est-à-dire qu'en effet, si vous avez une personne qui passe sous ce portique, elle a de la fièvre, vous la mettez de côté de telle manière à pouvoir l'isoler, la prélever et qu'elle est positive à ce nouveau coronavirus, ça fait une personne de moins qui était en capacité de disséminer le virus dans la population. Après, ce n'est pas le seul système. Vous avez des personnes qui ne vont pas forcément avoir de fièvre. Vous allez avoir des personnes qui vont atterrir, qui vont déclarer une fièvre une ou deux heures après. Enfin, c'est pas le seul
c'est
système,
ouais.
Mais ça peut être peut-être un système qui permettrait d'écarter. Voilà, c'est un premier filtrage.
On n'a pas de traitement aujourd'hui, on est d'accord, contre ce virus spécifiquement. Ce qu'on fait, c'est qu'on traite les symptômes. C'est un objectif, ça, dans vos labos et dans ceux des autres scientifiques à travers le monde, d'essayer de trouver un traitement?
Bien sûr, à chaque fois qu'il y a un nouveau virus, il y a des recherches qui sont faites dans les laboratoires de recherche. À partir du moment où on aura isolé réellement le virus, là, on l'a détecté, mais l'idée, c'est de l'isoler, donc d'avoir le virus en vrai, comme on peut dire, eh bien, on pourra voir si ce virus répond avec des sérums, on pourra faire des tests sérologiques,
avec
on pourra voir
qu'on a
des
déjà,
médicaments à côté.
Ouais.
Tout à fait.
Et qu'on a déjà, on pourra
et
tester
déjà,
des choses existantes.
Exactement,
hein.
Pour aller plus vite.
Et ça, on n'a pas pu le faire encore, hein. C'est des choses que vous allez...
Il faut isoler le virus.
Et vous êtes en train de le faire
exactement.
À l'Institut Pasteur. Et un vaccin peut-être aussi, ça aussi c'est l'objectif, parce que bon, mais un vaccin, je crois que ça ne se fait pas quand même en 2 minutes. Hein.
Non, un vaccin, ça ne se fait pas en 2 minutes. Après, il va y avoir des modèles de vaccins qui existent déjà pour ce type de virus, comme il y a des vaccins potentiels pour le MERS qui sont en voie de construction. Et donc, on pourrait se baser sur ces modèles déjà existants.
D'accord, mais en tout cas, ça fait partie de toute la population scientifique. J'imagine la communauté scientifique est en ébullition en ce moment. Tout le monde travaille là-dessus. Hein.
Oui, dans les différents domaines, en fait, chacun avec ses capacités vont avoir un intérêt, évidemment, à travailler sur ce virus pour essayer d'aider, en fait, indirectement, dans un premier temps, la communauté pour se soigner, pour... plein de domaines liés à la santé publique.
Un mot pour terminer pour les Français qui nous écoutent. Est-ce que, bon, on reste au calme, on ne panique pas. Pour l'instant, la situation, elle est vraiment totalement sous contrôle en France. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer?
Il ne faut surtout pas être apeuré. Il faut rester calme, écouter et s'informer de telle manière à savoir et vérifier si ce virus évolue encore. Pour l'instant, on peut dire que les données que l'on a aujourd'hui ne nous indiquent pas une évolution intense de ce virus. Il se dissémine, il se transmet d'homme à homme très facilement, mais il ne paraît pas plus dangereux qu'un autre pour l'instant.
Merci beaucoup, docteur Hainauf, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on n'en sait plus sur ce coronavirus que toute la planète surveille avec attention en ce moment. Selon vous, pour l'instant, donc pas de raison de céder à la panique en France. En tout cas, merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique « Les bobos du quotidien ». Et aujourd'hui, on s'est intéressé à la tendinite, comme son nom l'indique. C'est une inflammation d'un tendon. Un tendon, c'est le tissu qui relie un muscle à un os. Nous verrons quelles sont les causes de ce problème et surtout comment ça soigne. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle de la tendinite. Savez-vous dans quelle zone du corps cela peut survenir? Pourquoi d'ailleurs développe-t-on une tendinite? Et savez-vous comment ça se soigne? Benjamin Lévesque a été vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
Une tendinite, c'est une inflammation souvent d'une articulation ou d'un nerf.
Alors, c'est un problème de tendon, je pense.
Quand tu as une tendinite, eh bien, tu as une inflammation du tendon. Alors, si t'as du bol, il n'est pas rompu. Et si tu as un peu plus de chance, eh bien, du coup, il est juste inflammé. Il faut faire attention, il faut faire peu d'efforts. Ça se guérit assez mal.
On s'est trop tendu le tendon, en gros.
Sur l'échelle de 1 sur 10, ça doit être 3-4. Mais si c'est sur une partie du corps qu'on utilise fréquemment... Par exemple, le talon, là, en l'occurrence, c'est vraiment handicapant.
Je pense que ça peut arriver, enfin, il me semble aussi bien, oui, en faisant du sport, mais aussi aux personnes qui ne font pas de sport, en fait.
Quand on a une tendinite, on va voir le médecin et souvent, en fait, il prescrit des séances de kiné où, en fait, il faut aller travailler sur l'endroit où on a vraiment mal.
La tendinite, elle se guérit en faisant rien, c'est du repos absolu pour éviter de solliciter le tendon le temps qu'il puisse se reconstituer.
Bon, alors le médecin qu'on entend à la fin, non, je ne sais pas, je vous indique. On va voir si l'ordonnance du docteur Jimmy est la même. On fait le point donc sur la tendinite à présent. Avant de parler de ce bobo qui peut être très douloureux, d'ailleurs ça peut même parfois devenir chronique, on va en parler. Rappelez-nous ce que c'est qu'un tendon quand même.
Alors c'est les terminaisons fibreuses des muscles qui sont chargées de relier les muscles à l'os. Sont faits de fibres de collagène, donc c'est plutôt très résistant, mais aussi très souple. Et ça permet à l'os, aux muscles, de transmettre la force sur l'articulation pour permettre le mouvement, tout simplement.
D'accord, donc c'est quand même indispensable, on en a tous.
C'est une forme d'élastique.
C'est mieux quand ils sont en bonne forme. Mais malheureusement, donc un tendon, ça peut faire mal, ça peut être endommagé. C'est là qu'on parle de tendinite. Ça survient à cause de quoi en général?
Alors, il faut distinguer l'entorse de la tendinite. L'entorse, c'est vous tordez la cheville, vous avez très mal. Mm-hmm. Tout d'un coup, le ligament peut être rompu. La tendinite, c'est sur des mouvements répétés, prolongés, stéréotypés. Typiquement, le menuisier avec son tournevis va faire 50 000 mouvements de poignet.
Oui, donc,
à la fin de la journée, son tendon a tellement travaillé
usure, en quelque sorte,
qu'il devient très inflammatoire. Et c'est une forme d'élastique qu'on va tendre et détendre. Et au bout d'un moment, il peut être inflammé et être responsable de la douleur.
Et donc une tendinite, en général, ça touche quel tendon? Là, vous avez parlé du poignet, mais ça peut toucher n'importe.
Ça peut toucher toutes les articulations. En revanche, on sait que certaines sont plus fréquentes que d'autres. Le poignet, c'est très fréquent. Mm-hmm. La tendinite du tendon d'Achille, celle du coureur que je ne suis pas,
c'est aussi très fréquent. Moi, j'ai mal parfois, effectivement, au talon.
Voilà, ou quand on est mal échauffé, mal préparé. L'épaule aussi, c'est une tendinopathie. Elle est souvent dite calcifiante. Elle est liée à un petit calcul. Toute articulation peut être entraînée peut avoir ça. En revanche, attention, certains médicaments entraînent des tendinites, notamment les fluoroquinolones, le traitement de la cystite. Celui-là,
il
faut faire attention.
Bah, il faut le savoir. Juste les symptômes rapidement, et puis vous allez nous dire s'il faut toujours consulter ou pas.
C'est la douleur essentiellement. La douleur, lorsque vous bougez l'articulation, ça peut entraîner un gonflement, un épanchement, c'est-à-dire de l'œdème. Lorsque vous êtes en mouvement, la douleur s'aggrave, et lorsque vous reposez, ça va mieux.
Et on traite ça comment, rapidement?
Repos, si possible. On immobilise de façon temporaire, des anti-inflammatoires éventuellement. Et puis, dans les cas les plus avancés, on va voir le rhumatologue qui fait des infiltrations lorsque le traitement n'est pas suffisant.
Des infiltrations de corticoïdes, et puis éventuellement, on peut aussi ajouter quelques séances de kiné, je crois.
Pour lutter contre l'enraidissement, mais à la phase très aiguë, l'apport est plutôt moyen.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, c'est la sexo, la chronique sexo de Catherine Blanc, qui va nous parler aujourd'hui des consultations, justement, chez un sexologue. Elle va nous expliquer quand et pourquoi il est parfois nécessaire de consulter ce type de professionnel. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui trépigne d'impatience à l'arrivée de Catherine Blanc.
Piaf.
Catherine
Comme
Blanc,
toujours, effectivement.
Sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous avez vu quel accueil on vous fait à chaque fois.
J'adore,
Jimmy,
mais
hein,
j'adore.
Bon. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Emmanuel. Emmanuel, c'est une femme, donc je vous lis sa question. Avec mon mari, nous sommes ensemble depuis 16 ans. On a 3 enfants jeunes et donc une sexualité en dents de scie. Pensez-vous que l'on doit consulter un sexologue? D'ailleurs, à partir de quand faut-il consulter? Alors Catherine, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé de ce sujet, finalement, de votre métier, hein, en quelque sorte. À partir de quand est-ce qu'il faut se dire, tiens, j'ai peut-être ou on a peut-être besoin de voir un sexologue?
Alors, moi, je pars du principe qu'on n'est pas dans, on n'a pas lieu d'être dans la consommation de tous les spécialistes de France et de Navarre dès que nous sommes en difficulté. Nous avons tous des difficultés, nous rencontrons tous des difficultés de tout ordre. Et le propre de l'adulte, c'est aussi de faire face à ces moments de difficulté pour essayer de trouver ses propres solutions. Et d'ailleurs, on n'en sort que d'autant plus vainqueur et heureux.
Qu'on a puisé dans ses propres ressources.
Exactement. Ouais. Ceci étant, évidemment, il faut voir quelle est la part du moment où on cherche et où on essaie de se proposer, là dans le cadre d'une problématique de couple, de se proposer des solutions, nos solutions, et quand est-ce qu'on s'en mêle un peu trop, qu'on commence à en souffrir un peu trop, que du coup on teinte la relation de cette problématique et peut-être réduit la relation à cette problématique, auquel cas il est bienvenu d'avoir affaire à un tiers qui y voit plus clair ou qui aide à y voir plus clair.
Jimmy ?
Le sexologue ou la sexothérapie, elle est réservée uniquement aux personnes en couple ou on peut être célibataire et venir vous voir par exemple?
Ah non, c'est également pour les célibataires. C'est toutes les questions qui concernent la sexualité dans sa pratique, la sexualité dans son fantasme, et puis la question du genre, de son genre. Mais donc c'est même au-delà de la pratique de la sexualité. Je ne parle pas des questions genrées de très à la mode. Je parle d'être un homme et d'être une femme dans une société. Ça peut même être un sujet qui n'a rien à voir avec la pratique de la sexualité. Par exemple, si je suis dans ma vie professionnelle, dans une incapacité à faire une intervention dans un groupe à haute voix, quand je suis face à un groupe d'hommes ou quand je suis à un groupe de femmes, ça veut dire que ma position de femme ou d'homme est mise en question par la présence d'un autre sexe ou du même sexe que soi.
Et pour ça, du vous coup, pouvez intervenir aussi.
Exactement. Alors, bien sûr, pas le sexologue, le médecin, qui lui va être dans la pratique stricto sensu de la mécanique et de la physiologie de la sexualité, mais le sexologue psy, bien évidemment, c'est aussi son sujet.
D'ailleurs, dans votre patientèle, à vous, vous avez quelle part de personnes en couple et puis quelle part de personnes qui viennent pour des questions qui les concernent eux seuls?
Alors, ça ne donnerait pas tellement une image de
ce qui se passe.
Parce qu'en fait, tous les thérapeutes ont un type de clientèle. C'est-à-dire qu'il y a des thérapeutes qui ont plutôt des hommes, d'autres plutôt des femmes, par ce qu'ils renvoient eux-mêmes, par leur tranquillité personnelle, par leur expérience clinique, puisque les patients renvoient des patients qui leur ressemblent en général.
Donc, c'est beaucoup du bouche à oreille.
C'est beaucoup de bouche à oreille, ou par le biais de médecins ou de, qui, sont des, qui connaissent leurs patients et qui les adressent. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la question... Il y a eu longtemps plutôt des femmes qui venaient dans les cabinets parce qu'elles se permettaient de se poser les questions quand les hommes étaient un peu plus frileux. Et puis les femmes qui ont amené les hommes...
Leur mari.
Voilà, leur mari, qui ont fini par venir un peu contre leur gré. Puis après, qui ont été à l'origine d'ailleurs des demandes. Donc ça évolue beaucoup. C'est bien et c'est un peu triste aussi. Ça veut dire que quand même, notre société est un peu en difficulté.
Jimmy ?
Et on a l'image ou ce cliché qu'il faudrait être un senior ou un vieux couple pour venir voir un sexologue. Est-ce que vous avez des patients qui sont plutôt jeunes, je ne sais pas, qui ont la vingtaine, la trentaine?
De plus en plus jeunes, oui. Malheureusement, parce que, je dis malheureusement parce que on se donne plus le droit dans notre société de s'en mêler un peu les pinceaux. Tout de suite, ça semble rendre compte d'une inaptitude sociétale. À être dans la société, pardon. Et donc, résultat, dès que ça c'était un peu en difficulté, tout de suite, ils viennent consulter au lieu de se donner le temps justement de s'approprier leurs propres difficultés, leurs propres émois contrariés. Et alors, tant mieux, c'est la preuve d'une intelligence que de pouvoir le réfléchir. Je crains que ce soit aussi une difficulté à se prendre en charge dans une société qui nous a invités à toujours être pris en charge par autrui. Surtout, on est protégé de tout, on a des assurances pour tout, il y a des spécialistes pour tout, il y a des réponses partout, par des spécialistes qui sont proposés. Et du coup, l'individu lui-même se décharge de cela, ce qui est dommage, puisque dans la sexualité, nous y allons avec notre corps, avec notre émotionnel et avec notre partenaire, et a priori pas avec un thérapeute.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, nous parlerons de chirurgie esthétique à l'occasion de l'IMCAS. C'est le congrès mondial de l'esthétique qui se déroule cette semaine à Paris.